Béni soit le Seigneur. C'est pour ces moments privilégiés où nous sommes sous son regard. Nous allons faire plusieurs lectures dans la parole de Dieu. C'est pour ainsi dire une introduction au sujet pour lequel nous prions depuis quelques jours, à savoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons voir dans Luc, chapitre 10, au verset 38, cette histoire que nous connaissons fort bien. Luc, chapitre 10, verset 38. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Quelques jours plus tard, il s'est passé une autre affaire avec cette même femme. Nous allons le lire, Marc chapitre 14, verset 3. C'est la même Marie. Évangile de Marc, chapitre 14, verset 3e. C'est la même personne, Marie de Béthanie. Évangile de Marc, chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. » La preuve, c'est que ce soir, à Toulouse, on témoigne de cette affaire 2000 ans après. Cette femme, dans la première histoire, elle fait rien et on la critique. Dans la deuxième histoire, elle fait quelque chose et on la critique. Mais le Seigneur, il sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Alors, je voudrais lire un autre texte avec vous dans le psaume 45. Gardez la page de Marc, chapitre 14. Dans le psaume 45, David est en train de faire une expérience. Ce n'est pas de David. C'est des fils de Corée. Psaume 45, verset 2, c'est un chant d'amour qui exprime l'amour qu'il y a pour Dieu. Alors, il faudrait lire le psaume en entier, vous pourrez le faire, qui est le résultat de quelque chose qui est dans le cœur des fils de Corée. Psaume 45, verset 2, « Des paroles pleines de charme bouillonne dans mon cœur. Le résultat, je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, etc., etc. » Il y a tout un psaume, tout un poème d'adoration. Pourquoi? Parce que le cœur de cet homme boue pour Dieu. Et vous savez, quand quelque chose boue dans le cœur, à un moment ou un autre, il faut que ça sorte, que ça se transforme en action. C'est pour cela que j'ai pris ce psaume pour introduire cette prédication de ce soir qui s'intitule « Ma coupe déborde ». Je voudrais que nous comprenions que lorsque un cœur est bouillant, puisqu'il dit des paroles pleines de charme, bouillonnent dans mon cœur, ça fait très poétique, mais ce n'est pas de la poésie, c'est spirituel. Et parce que son cœur boue, c'est obligé de sortir, comme la cocotte minute, on le sait, quand est-ce que c'est prêt, hein, elle ne peut pas faire autrement que de faire sortir de la vapeur. Quand un cœur boue pour Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, ça va se transformer en action. Est-ce que vous le croyez ça? C'est important. Et c'est une question que l'on peut se poser. Je viens de vous dire qu'on va introduire ce sujet sur le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est une question quand même qu'il faut que nous posions aux églises, à l'assemblée. Est-ce que dans mon cœur, il y a quelque chose pour Dieu qui ne peut pas faire autrement que de s'extérioriser? Quand un cœur est plein de louanges, vous vous attendez à quoi? Quelqu'un qui a le cœur rempli de louanges, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire merci. Il ne peut pas ne pas dire merci. C'est obligé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si ces choses, comme dit Pierre, ne sont pas en nous, il en parle de ses vertus. Si elles ne sont pas en nous, nous resterons oisifs et stériles. Et le résultat, c'est que le monde ne connaîtra pas cette vie de l'esprit, ce fleuve que nous venons d'évoquer dans des cantiques. Ces cantiques merveilleux qui expriment la volonté de Dieu. Oui, il y a un fleuve. Dieu se trouve dans un fleuve, excusez-moi l'expression. Il y a un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Et si ces choses ne sont pas en nous, nous sommes en danger. Et petit à petit, le cœur se vide comme les lampes de ces fameuses saintes vierges folles qui, insensiblement, imperceptiblement, se sont vidées. Et quand le moment fatidique est arrivé, c'était trop tard. Il nous est parlé de Samson. Vous connaissez Samson qui avait reçu de Dieu la force. Hein, il avait reçu la force. C'est un homme qui a reçu, pas toute la force de Dieu, c'est clair, mais il avait quand même reçu une certaine force. Et il a joué, il a flirté, il a fait n'importe quoi. Et à un moment donné, il nous est dit qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est pas triste ça? Il croyait que Dieu était en lui, mais il avait tellement insisté dans sa misère, il ne le savait pas. L'église de Laodicée ne savait pas dans quel état elle se trouvait. L'église de Sardes ne savait pas dans quel état elle se trouvait. Saül ne savait pas non plus dans quel état il se trouvait. Et il y a bien une prière que nous devrions faire parfois, comme David, « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». On peut la faire cette prière? Oui. J'ai entendu quelqu'un un jour qui m'a dit « Mais de toute façon, dans le Nouveau Testament, il y a toujours le Saint-Esprit dans le cœur des chrétiens ». Oui, d'accord, mais quand c'est qu'un petit lumignon, c'est pas quand même beaucoup. Même si Dieu peut le réactiver, vous avouerez que c'est quand même dommage de se contenter de celui mignon. Moi, je trouve qu'on est vraiment en danger. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est une prière que l'on peut faire afin de veiller sur son âme. Dieu parle souvent du témoignage du chrétien, de ce qu'il doit être, de la façon dont il doit briller. La Bible nous compare à un vase. Vous le savez. La Bible nous compare à des vases. Voilà. Mais dans ce vase, il faut qu'il y ait un trésor. Et l'apôtre Paul en parle, on peut lire un verset qui l'indique bien. C'est dans 2 Corinthiens. C'est important parce qu'on ne peut pas parler du baptême du Saint-Esprit sans commencer à parler du fait que nous sommes des vases. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, il faut bien le comprendre. Le baptême du Saint-Esprit, d'ailleurs, c'est un don. Normalement, dimanche, si le Seigneur me conduit dans la même pensée, nous réaliserons que de la même manière que le salut est un don, le baptême du Saint-Esprit est aussi un don. Mais il faut commencer par le début et réaliser d'abord ce que nous sommes. 2 Corinthiens 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Vous pourrez lire, ceux qui prennent des notes, jusqu'au verset 18 pour comprendre exactement ce que Dieu attend. Oui, Dieu compare le chrétien à un vase de terre dans lequel il y a un trésor. En vérité, le vase n'est rien. C'est le trésor qui est tout. Le vase est temporaire. Nous sommes temporaires. Nous allons rester 20 ans, 40 ans, 70 ans sur la terre, plus pour certains. Bon, mais nous sommes temporaires, alors que le trésor qui est à l'intérieur du vase est éternel. Vous êtes d'accord, hein? Et il doit y avoir cette compréhension de ce que nous, êtres humains, nous sommes des vases, mais que tant que ce vase n'est pas rempli de ce trésor, il ne vaut pas grand-chose, excusez-moi l'expression, je ne veux pas être péjoratif ni rien, mais qu'est-ce que vaut un vase sans Dieu à l'intérieur? Vous avez dit, ben si, monsieur Gourin, chaque créature est aimée de Dieu. Oui, d'accord. Mais franchement, tant qu'un vase n'est pas habité du trésor du Saint-Esprit, vous avouerez que quand même, le vase est voué à la perdition. Oui ou non? C'est important. Bien sûr que l'homme est important. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Bien sûr, Dieu nous a créés, Dieu nous aime, il nous prépare pour la vie éternelle, etc., etc. Nous le savons. Mais franchement, nous réalisons tous très bien que sans la puissance du Saint-Esprit en nous, nous ne voulons pas grand-chose et nous ne pouvons pas faire grand-chose. Le vase, il a de la valeur par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut réaliser que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit en nous est vraiment un trésor. Nous n'avons pas été créés pour aller à l'enfer, nous avons été créés pour contenir la vie de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et Paul, si vous lisez la suite, vous verrez que Paul, il dit, mais écoutez, toutes les épreuves de la vie, toutes les afflictions sont rien à côté de ce trésor qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors il faudrait le lire, mais on n'a pas le temps de lire tout ça ce soir. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous? Le vase ou le trésor qui est à l'intérieur? Pour beaucoup, vous savez, aujourd'hui, c'est le culte du corps. Vous avez vu tout ce qui est fait pour le corps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, est-ce que c'est bien de prendre soin de soi? Bien sûr. Je crois qu'un chrétien, il doit rendre un bon témoignage. Mais il y a des gens pour qui il n'y a que le corps qui compte. Il faut absolument plaire, il faut être très beau. On appelle ça le culte du corps. Nous sommes dans cette société et c'est quand même dommage. Bien sûr que le vase en soi, la vie que nous sommes, doit être placée sur le tour de la parole. Vous savez que le potier, Dieu est comparé à un potier, que nous sommes comparés à des vases et il nous est parlé d'un tour sur lequel Dieu veut que le vase soit. C'est un peu ce que nous sommes en train de vivre ce soir. Nous sommes les vases, nous sommes venus dans l'atelier et nous acceptons ou non que les mains du Seigneur se posent sur le vase, car le rôle d'un vase, c'est d'être sur le tour. Après, c'est le potier qui va façonner le vase comme il le voudra, au travers des circonstances, des épreuves, des situations. Dieu vous façonne. Est-ce que vous êtes sur le tour de sa parole? Est-ce que vous acceptez d'être façonné? Est-ce que vous acceptez d'être pris, d'être jeté sur le sol, afin que la pâte soit tout à nouveau reformée? Est-ce qu'il y a eu des épreuves qui vous ont jeté par terre? Ah oui, ça peut arriver. Mais Dieu ne travaillera pas nos vies si nous ne sommes pas sur le tour de sa parole. Vous savez, il y a la parabole du terrain, des terrains. Il nous est parlé de quatre sortes de terrains. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est nous qui choisissons le terrain que nous voulons être. C'est nous qui choisissons d'être de la bonne terre si nous laissons la charrue passer. C'est nous qui acceptons les épines ou pas. C'est nous qui acceptons de garder les problèmes en soi, ces pierres qui représentent les problèmes intérieurs que nous ne voyons pas, mais qui sont là. On peut parler de l'avarice, on peut parler de certaines choses qui peuvent être là. Nous, personne ne le sait. Si quelqu'un est avare, ça peut se ressortir dans une discussion, mais il y a des choses, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Donc, c'est nous qui choisissons le vase que nous voulons être. Et ce soir, nous sommes là devant une responsabilité. Dieu veut que la coupe déborde. Dieu veut que les vases soient des vases d'honneur, des vases de gloire, des vases de miséricorde. La Bible parle des vases de colère, dans lequel il y aura un trésor de colère. C'est des expressions qui vous font froid au dos. C'est pas vrai ? Des vases de colère, remplis de trésors de la colère pour le jour de la colère de Dieu. Voilà ce que certains sont, des trésors de colère, ils ont emmagasiné dans leur vie. Que ça fait pitié vraiment. Enfin, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être des vases d'honneur, utiles, sanctifiés, propres, à sa gloire. Parler du baptême du Saint-Esprit doit être perçu déjà dans cette façon de voir des vases. Oui, des vases, chacun est différent, déjà par sa morphologie, mais déjà par rapport au plan de Dieu. Des vases, il y a des vases, on peut lire dans 2 Timothée. C'est important, parce que Dieu, il est assez grand pour faire plein de vases différents. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Vous vous rendez compte, si on avait tous la même taille, tout le même poids, tous la même coupe de cheveux, tous les mêmes yeux, vous vous rendez compte, si on se ressemblait tous? Imaginez-vous si vous ressembliez tous au gars qui est en face de vous. Comment ce serait triste, hein? 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Le Seigneur continue à parler de vases. Il y a beaucoup de textes dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qui nous parlent des vases. Si vous avez une concordance, vous pouvez vous appliquer à prendre tous ces textes ensemble. 2 Timothée 2, 20. Dans une grande maison, Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si vous lisez de la Timothée, vous verrez ce qui va contribuer à ce que le vase soit bon, utile, d'honneur, et vous verrez également ce qui va contribuer à ce que le vase soit un vase inutile. Et il y a des chrétiens, il faut le dire, inutiles. Je me souviens de ce jour où j'avais préparé une prédication, parce que j'avais été invité dans une église, j'avais pris une prédication que j'avais faite quelques mois avant, et dans la nuit, le Seigneur m'a réveillé, et j'ai entendu, c'est rare, mais comme si quelqu'un parlait dans la chambre. C'était 3h du matin, je me rappelle. Ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Et c'était le sujet pour l'église où j'allais. Ils sont incapables d'aucune œuvre, d'aucune bonne œuvre. C'est dans Tite. Et je me suis réveillé. Et je suis parti préparer la réunion. Et je dis, voilà, le message dans l'église, il y a plein de gens qui sont inutiles. Mais j'ai dû ça. Les gens me regardaient. Et il fallait, je le savais, je ne pouvais pas m'échapper. Je ne pouvais pas faire une autre prédication. Et c'est vrai qu'il y a des vases inutiles. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, car quand on est baptisé du Saint-Esprit, on devient utile, presque malgré soi. On ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est quand même important de le réaliser. Le propre d'un vase, c'est d'être utile. Un chrétien, il doit être utile. Et vous devez vous poser la question, est-ce que je suis utile? Oui ou non? Ben oui, il faut que vous vous posiez la question. Ça, c'est quelque chose de sérieux. Alors, c'est à nous de choisir le terrain que nous voulons être, le bon terrain. Seigneur, par ta parole, je te prie de briser les montres, je te prie de révéler les problèmes intérieurs. Il y a peut-être de l'amertume. Vous voyez, il y a des choses qui se voient dans la vie de quelqu'un, il y a des choses qui ne se voient pas. Par exemple, si quelqu'un est soucieux, ça se voit. Il est dit que les épines sont les soucis du siècle. Quelqu'un qui est soucieux, ça se voit. Vous discutez avec lui, au bout d'un moment, vous le voyez. Ça se voit ou ça ne se voit pas? Un chrétien qui est inquiet, ça se voit. Mais il y a des problèmes qui ne se voient pas. On peut les cacher longtemps. Et ça, c'est quelque chose parfois de périlleux, parce qu'on peut penser qu'on n'a pas de problème, et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler tel ou tel problème. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des vases d'honneur, utile, que nous comprenions que si nous sommes des vases, à l'intérieur, il y a un trésor. Comment ce trésor est-il? Dans quel état est-il? Dieu veut une chose, c'est que nous oindre du Saint-Esprit pour que notre coupe déborde. C'est qui le dit ça? Tu oindes d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est qui a dit ça? C'est David. Dans le psaume 23, voilà quand quelqu'un a Dieu pour berger, il a besoin d'onction. Est-ce que vous ressentez ce besoin d'onction? Pas pour votre autosatisfaction, pas pour votre gloire, mais pour le service. Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous en avez besoin? D'être baptisé du Saint-Esprit, ou d'être tout à nouveau rebaptisé du Saint-Esprit. Alors on va travailler dimanche le domaine de la soif, parce que si on n'a pas soif, est-ce qu'on peut donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif? Et ça, c'est le problème, je pense, majeur de l'Église aujourd'hui en France, c'est qu'il faut tout à nouveau que Dieu suscite cette soif. David, il avait soif, il était conduit près des eaux paisibles, il avait continuellement soif, et c'est ce qui a permis à cet homme d'être un homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de choses à apprendre, il y a un secret, c'est la communion avec Dieu. Est-ce que ça vous intéresse, la communion avec Dieu? C'est ça que Dieu veut que vous ayez. Cette onction, c'est ça les temps de rafraîchissement. Vous vous rendez compte si les églises entières étaient baptisées du Saint-Esprit? Est-ce que vous vous rendez compte si tous les chrétiens, nous recherchions cette onction? Comment nous serions conduits par Dieu? Vous ne croyez pas que Dieu nous conduirait? Dimanche, en partant à Limoux, il pleuvait, il a plu tout le long. À un moment donné, j'ai vu deux gars qui faisaient du storm, mais ils étaient trempés. Trempés. Et j'étais pressé, sans l'aide. Et je me suis dit, j'ai senti la voiture, arrête-toi et prends-les. Et je voulais pas, vous voyez comme je suis, je voulais pas qu'ils salissent la voiture. Ouais. J'ai honte, mais c'est vrai. Et oui, c'est pas bien. Et je les ai pris. Et puis je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites? On sort de faire la fête. Ah, j'ai dit, vous faites de la fête?
Alors moi, je leur ai dit, mais moi aussi, j'ai fait la fête quand j'avais votre âge. Alors je leur ai parlé, vous savez, j'étais dans une boîte de nuit. Et puis bon, je ne vais pas raconter ce que j'ai dit. Mais j'ai été poussé à leur parler. Et j'ai pu leur donner une Bible. Et je suis sûr, j'ai des progrès à faire, vous le savez. Mais je sais une chose. C'est que quand on se tient devant Dieu, le Saint-Esprit nous arrête. Et il nous montre certaines choses. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs? C'est un petit témoignage. Mais on le sait, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on cherche la vie de l'Esprit, le Seigneur nous amène à faire des choses qu'on ne pensait pas faire. C'est important, mes frères et sœurs, d'être rempli de l'Esprit. Et vous savez, le bonheur dans la Bible. Le bonheur dans la Bible, il est lié à la sainteté. Ça va ensemble. Le bonheur et la sanctification, ça va ensemble. De la même manière que le péché et le malheur, ça marche ensemble. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a des choses, elles vont ensemble. Un chrétien qui a soif de sanctification, un chrétien qui a soif de cette vie de l'Esprit, il sera heureux. C'est écrit ou c'est pas écrit? Eh oui, c'est heureux. Heureux l'homme hein, qui fait ces choses. Soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà le mot d'ordre du Seigneur pour notre génération, pour le bien de l'Église, pour la bénédiction de Dieu, pour votre bénédiction. Nous devons en faire une affaire sérieuse, une affaire profonde, nous devons en faire une affaire vitale, solennelle. Oui, nous voulons être remplis du Saint-Esprit, non pas parce que c'est un commandement, parce que nous savons, mais parce que nous savons que c'est la seule solution. Alors je reviens à cette femme qui a été amenée à un moment de sa vie à faire quelque chose d'extraordinaire. Les apôtres qui étaient là ont dit, mais c'est du gaspillage. Ce que fait cette femme, c'est du gaspillage. Et c'est vrai que l'ennemi veut nous faire croire que rehausser le niveau spirituel, ça va être peut-être du gaspillage. Il y a des gens qui ont peur de se consacrer entièrement au Seigneur. Ils disent, je veux bien consacrer ma vie à Dieu, mais je veux bien un peu pour moi quand même. Un peu pour moi. Et ça, ça fait des compromis. Cette femme, elle a été critiquée par les apôtres parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Et l'adoration, la vie du Saint-Esprit, ça consiste à faire ce que cette femme a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? On la voit, elle est assise auprès du Seigneur. Plus loin elle la voit, on la voit, elle est prosternée devant le Seigneur. Et elle va lui donner ce qu'elle a de plus précieux. C'est quoi qu'on a de plus précieux? Est-ce que ce n'est pas notre vie? C'est ce que ça représente, ce vase, ce qui est brisé. Est-ce que votre vie est précieuse à vos yeux? Oui. Est-ce qu'elle est précieuse aux yeux du Seigneur? Eh oui. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit en vous, laissez-moi vous dire que votre vie est très précieuse aux yeux du Seigneur. Vous ne le réalisez peut-être pas. Mais quand on parle du gaspillage, d'une vie consacrée à Dieu, on en reparlera au dernier jour. Le jour où on passera devant Dieu, je crois que ceux qui auront donné toute leur vie à Dieu, ça n'aura pas été du gaspillage. Oui. Vous ne croyez pas? Et n'écoutez pas les Judas modernes, comme ça s'est passé là, qui essaieront de vous faire croire qu'il ne faut pas vous consacrer entièrement à Dieu, que vous allez perdre votre vie, que vous allez bousiller, excusez-moi l'expression, votre vie. Il va vous pousser à dire, mais non, mais tu sers Dieu, mais en même temps, pense à toi, tu sais, tu es tellement important, occupe-toi surtout de toi, pense à tes intérêts personnels, etc., etc. Mais c'est valable dans un autre domaine aussi. C'est valable aussi dans les activités d'église. Il y a des chrétiens, ils courent dans tous les sens et ils n'ont pas de communion avec Dieu. Cette femme, elle ne courait pas dans tous les sens. Cette femme, nous la voyons assise au pied du Seigneur. Et parce qu'elle est assise au pied du Seigneur, elle reçoit la pensée de Dieu. Et c'est ce qu'il faut absolument comprendre. C'est pour ça que Jésus a dit à Marthe, mais tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, c'est clair. Recevoir le Seigneur dans sa maison, faire un repas pour les 12 apôtres, c'était beaucoup de choses, ça c'est sûr. Et puis c'était l'œuvre de Dieu. Mais il y a quelque chose de plus grand que de servir, c'est d'abord d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et nous voyons dans cette femme-là, elle est assise, elle est en train de recevoir la pensée de Dieu. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il va recevoir la pensée de Dieu. Je vous ai donné ce témoignage d'une sœur un jour qui avait fait son culte. Je vous l'ai donné il y a quelques années ce témoignage. C'était une sœur qui était en train de faire son culte personnel. Puis à la fin de son culte, elle a passé une heure dans la prière à lire la Bible. Elle a eu à cœur, elle a eu cette pensée, fais un gâteau à telle sœur. Puis après, elle a pris son aspirateur et tout. Et là, fait un gâteau à telle sœur. Ah, mais elle habite de l'autre côté de la ville. Elle regarde, il y avait la grève des bus. Tu peux pas y aller. Il y a la grève des bus. C'était une mémé déjà. Bon, elle continue à faire son ménage. Et puis tous les quarts d'heure, fais un gâteau et amène-le à cette sœur. Bon, elle s'est attaquée à faire ce gâteau. Elle l'a fait. Elle l'a cassé. Vous savez, ces gâteaux qu'on fait. Alors elle fait un nappage dessus. Et puis elle partit à pied. Elle est partie à pied. Elle a traversé la ville à pied avec son gâteau. Et elle est arrivée chez la sœur, qui ne pouvait pas venir à l'église depuis des mois. Et quand elle a vu la sœur, elle a dit, oh, le Seigneur a entendu ma prière, il n'a même pas oublié mon anniversaire. C'était le jour de son anniversaire. Et cette femme, elle a été bouleversée, parce qu'elle n'avait pas eu de visite depuis longtemps. Et elle, ça a été un moment de bénédiction. Ils ont passé une heure ensemble, bien sûr, ils ont mangé le gâteau. Mais je crois que quand on est à l'écoute, le Saint-Esprit va nous conduire. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas faire, c'est contrôler ces choses. On ne peut rien organiser. Moi, c'est quelque chose que je ne peux plus d'ailleurs supporter, l'organisation qui empêche le Saint-Esprit d'agir dans une église. Il faut que chacun, nous nous appliquions à nous mettre à l'écoute. Marie a choisi la meilleure part. Elle est là, elle est assise, il y a du travail à faire, mais elle est à l'écoute de Dieu. Elle a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Pourquoi ça n'a pas été ôté ? Eh bien, parce que quelques jours après, alors que Jésus va bientôt mourir, c'est 6 jours avant Pâques, Jésus est en état d'arrestation. Il est recherché par la police. C'est ça. Il est en danger de mort. On le cherche pour le tuer. Et voilà qu'un homme, Simon le lépreux, il n'était plus lépreux, mais il va le recevoir dans sa maison. C'est pas bien ça ? C'était bien ce qu'il a fait, ce gars ? Vous voyez comment il était recherché. Lui aussi, il était en danger. Il a accueilli un malfaiteur. Il a été mis au rang des malfaiteurs. C'était un trouble fait. Eh bien, il l'a accueilli dans sa maison. Et il a bien fait. Parce que ce jour-là, il est arrivé, cette femme qui avait tout calculé avec son vase. Et Jésus va dire, ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour ma sépulture. Cette femme, quand Jésus parlait qu'il allait mourir, qu'il allait souffrir, qu'il allait être crucifié, les gens, ils haussaient l'épaule, ils ne croyaient pas, ils doutaient. Mais cette femme, quand Jésus parlait de sa mort, elle savait que ça allait arriver. C'est pour ça qu'elle a choisi la meilleure part, parce qu'elle était à l'écoute de Dieu, elle savait ce qui allait se passer, elle a été conduite par le Saint-Esprit pour faire quelque chose dont on parle encore aujourd'hui dans les églises du monde entier. C'est la preuve que quand on est à l'écoute, eh bien on va être conduit par le Saint-Esprit pour faire certaines choses. Et c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui, cette onction du Saint-Esprit qui fait que l'on fera les œuvres que Dieu veut que l'on fasse. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, Dieu a un plan pour vous. Et il veut que vous entriez dans ses œuvres, et ce n'est pas à moi de vous dire, faites ceci. Bien sûr que Dieu peut nous utiliser. On l'a fait, je vois notre frère M. Puette, il a été orienté pour le travail d'imprimerie dans l'église. On en a parlé. Des fois, Dieu va utiliser un frère, un ancien, une sœur, pour vous encourager à une activité. Mais il faut faire les choses par conviction. Cette femme, elle était convaincue qu'il fallait qu'elle reste assise au pied du Seigneur. Et pourtant, elle a été critiquée. Elle a été critiquée par les pasteurs quand elle a rompu ce vase. Du gaspillage. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu la gaspilles pas. Il y a des gens, je suis sûr, qui doivent se dire tous les dimanches enfermés dans l'église. Le dimanche après-midi, mais il est malade celui-là. Il va visiter une grand-mère à l'hôpital. Quel gâchis, le pauvre type. Vous ne croyez pas que les gens ils pensent ça de nous ? Vous ne croyez pas qu'ils pensent ça ? Ce jeune, quel gâchis. Le dimanche, il s'enferme à l'église. Le pauvre. Moi, je ne crois pas que c'est du gâchis. Je ne crois pas que c'est du gaspillage. C'est une grande bénédiction d'offrir ce que l'on a de meilleur. Ça correspondait à un an de salaire. C'était des économies extraordinaires. Mais voyez, ce parfum, il parfume encore notre réunion ce soir. 2000 ans après, il y a des parfums qui durent longtemps. Ça, je le crois vraiment. Cette femme, elle savait ce qui allait arriver. Elle le savait. Est-ce que nous savons ce qui va arriver ? Est-ce que par les prophéties bibliques, nous savons ce qui va arriver ? Est-ce que nous savons que Jésus va revenir ? Est-ce que nous savons que le temps est court ? Est-ce que nous savons que le jour vient où personne ne peut travailler ? Est-ce que nous le savons ? Elle a fait ce qu'elle a pu. Vous avez vu le texte ? Comment c'est dit ? Elle a fait, on le relit ? Cette femme, elle a fait ce qu'elle a pu. Marc 14, il y a des clés comme ça, quand même. Voyez, verset 8, Marc 14, verset 8, c'est quand même magnifique. Marc 14, verset 8, elle a fait
ce qu'elle a bu. Est-ce que nous faisons ce que nous pouvons? Vous rendez compte de tout d'un coup ce parfum qui s'est répandu dans, c'est écrit, le parfum s'est répandu dans toute la maison. Je crois que c'est dans l'évangile de Jean que c'est écrit. Je ne sais pas si c'est écrit là, je n'ai même pas fait attention. Hein? Le parfum s'est répandu dans toute la maison. Non, c'est dans l'évangile de Jean. Vous voyez, c'était un repas qu'il y avait. Il doit y avoir la cuisine, ça sentait, je ne sais pas, le mouton, ça sentait, je ne sais pas. Ça sentait. Non, mais sérieux. Il y a des odeurs dans une maison quand on cuisine. Hein? C'était à 6 jours avant Pâques, il doit y avoir les odeurs d'échange, j'en sais rien. Et tout d'un coup, cette odeur qui va prendre le dessus surtout. Quelle grâce! Quand la bénédiction de Dieu parfume l'Église. Quand l'Église est parfumée par ce que nous faisons de tout notre cœur pour lui. Non, ce n'est pas du gaspillage. Le gaspillage, mais est-ce que c'était du gaspillage quand Jésus a guéri Simon le lépreux? Est-ce que c'est du gaspillage quand Jésus multiplie le pain et le vin? Est-ce que c'est du gaspillage quand Jésus ressuscite Lazare? Ce n'est pas du gaspillage, c'est de l'amour. Cette femme, c'est l'amour qui l'a poussée à faire ce qu'elle a fait. Pourquoi elle a fait ça? Pour se faire remarquer? Pour faire la belle? Elle a fait ça par amour. Et quand vous aimez, vous ne pouvez pas ne pas donner. Ce n'est pas possible. Les gens qui ne donnent pas, qui ne se donnent pas, ce sont des gens qui sont vides. Alors c'est pas un reproche, c'est une vérité, c'est un problème en tous les cas, un problème à régler. Et si vous faites partie de ceux qui sont vides, qui se sont fait piéger par le diable, qui comme Samson n'ont pas fait attention petit à petit à ce que l'Esprit de Dieu s'est complètement éteint, eh bien il faut en faire une affaire personnelle. Seigneur, je veux réapprendre à donner, je veux réapprendre à me donner. De toute façon, il n'y a pas de plus grande joie que de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont tristes? Non pas parce qu'ils ne reçoivent pas, mais parce qu'ils ne donnent pas. Et on a souvent utilisé l'image du Jourdain. Vous savez, le Jourdain, il se jette dans la mer de Galilée. Et puis après, il se jette dans la mer morte. Dans la mer morte, il n'y a rien. Et pourtant, c'est la mémo qui se jette dans la mer de Galilée. Mais parce que l'eau rentre dans le lac, elle ressort. Et c'est un lac plein de poissons. Et dans l'autre, la mémo, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que elle reçoit l'eau, mais elle ne se donne pas. C'est une image extraordinaire. Et vous recevez ce soir, j'espère, parce que c'est la parole de Dieu, pas parce que c'est moi qui prêche, j'espère que vous recevez quelque chose. Mais si vous recevez quelque chose, il faudrait normalement que vous le réutilisiez pour le donner. Et dire, Seigneur, mais c'est vrai, il faut que moi aussi, je sache m'attendre à toi, rester dans ta présence. Quelle est ta volonté? Quelle est ta pensée? Peut-être que quelqu'un va me critiquer parce que si, parce que ça. Le problème, ce n'est pas ce que les autres pensent. Le problème, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? Cette femme, elle aimait Jésus. C'est la seule femme, c'est la seule personne du Nouveau Testament qui a compris vraiment ce qui allait arriver. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle l'a fait pour la sépulture. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous faites, est-ce que nous faisons, est-ce que nous voulons faire ce que Dieu nous demande? Alors il faut avoir soif. Cette femme, elle avait soif. Elle avait certainement envie d'aider sa sœur, Marthe, à préparer le repas. Ce n'était pas une paresseuse. Mais il y avait quelque chose qui bouillait dans son cœur. Elle avait besoin d'être seule avec son Seigneur. Est-ce que vous aimez être seule avec votre Seigneur? Est-ce que c'est important pour vous? Ou est-ce que vous dites, ah, moi l'Église c'est bien, je suis là, on est ensemble, on reçoit. Mais est-ce que vous ne croyez pas que Dieu veut que vous soyez seul de temps en temps avec lui? Est-ce que c'est une bénédiction ou est-ce que c'est une corvée? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et je le répéterai, on en parlera dimanche, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. Il faut juste le recevoir par la foi. Alors mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons véritablement nous appliquer des paroles pleines de charme, bouillonnent dans mon cœur? Les chrétiens, ils ne peuvent plus prier, ils n'ont plus envie. Alors ce n'est pas un reproche, mais c'est que leur cœur est vide. Est-ce que Dieu peut le remplir un cœur vide? Est-ce que Dieu peut remplir un cœur vide? Il y a des gens, moi je ne loue plus le Seigneur, plus envie. On n'a pas à les juger, ils ont l'honnêteté de le dire. Mais il faut que l'honnêteté aille jusqu'au bout. Parce que si on est honnête envers les gens, autant l'être avec Dieu. Et dire, Seigneur, j'ai peut-être plus envie de louer. Mais je crois que tu peux me remplir tout à nouveau. Parce que quand on est rempli, on ne peut pas faire autrement que d'extérioriser. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive
couleront de son sein. On ferme les yeux quelques instants. Oui, cette femme, elle a été critiquée deux fois, quand elle écoutait et quand elle servait. Mais je peux vous dire que ce n'est pas les autres qui importent. Et je m'adresse aux jeunes en particulier, les jeunes. Est-ce que vous êtes conscients du temps que vous perdez? Les jeunes, je vous appelle ce soir devant Dieu. Est-ce que vous êtes conscients du gâchis lorsque vous ne pensez qu'à chatter, qu'à aller sur Internet? Est-ce que vous êtes conscients, là, du gaspillage de votre vie? Et je ressens fort dans mon esprit que plusieurs jeunes sont comme liés par ces choses et que le Seigneur veut vous délivrer. Je ressens fortement dans mon esprit que certains jeunes qui sont capables de passer 3, 4, 5 heures devant leur ordinateur, vous êtes comme écrasés par ces choses. Mais que le Saint-Esprit veut vous délivrer. Le Saint-Esprit veut vous guérir afin que vous puissiez vous approcher du trône et recevoir ce baptême du Saint-Esprit par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit « Oh, mais c'est pour moi que ça s'adresse, ma vie est en train de s'assécher, je suis comme Samson, je ne me réalise même pas que ma vie n'est qu'un lumignon qui fume. » Alors je veux, Seigneur, je veux être disponible entre tes mains. Je veux apprendre à m'asseoir. Peut-être que vous ne faites même plus votre culte personnel et que ça ne vous contrarie pas du tout. Peut-être que vous prenez juste une minute ou deux pour lire votre Bible ou pour partir, pour prier avant de partir au travail. Vous devez vous repentir. Je vous le dis de la part du Seigneur. Car je l'ai dit tout à l'heure, le terrain, c'est nous qui choisissons le terrain que nous voulons être. Ce terrain travaillé, labouré, qui portera du fruit, ou ce terrain pierreux, piétiné, plein d'épines. Oui, nous croyons que le Saint-Esprit veut changer l'Église. Le croyez-vous, mes frères et sœurs ?